Chapitre 79. La route est recouverte de neige et le grondement des pneus est maintenant atténué. Toutes les localités que traverse Yuna sont plongées dans l'obscurité. Il essaie de joindre à nouveau Hugo et Agneta, mais le réseau téléphonique est toujours hors service. Même le système Raquel a cessé de fonctionner depuis une heure. Il est censé puiser dans une alimentation de secours pendant 7 jours, mais les stations de base du réseau semblent hors d'usage, probablement à cause de pylônes renversés par le vent. Malgré la tension, Yuna ne parvient pas à rouler plus vite. Il dépasse un bus de ligne abandonné sur le bord de la route, et la seconde suivante, celui-ci a disparu, dans la blancheur épaisse. Quand la tempête de neige a envahi les champs et les plaines, et a enveloppé la voiture, sa pensée s'est évadée vers la deuxième séance d'hypnose, saturée de cauchemars, puis vers la troisième, libératrice. Soudain, la solution lui est apparue. Tandis que son cœur battait à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline, il avait pensé qu'il méritait bien une petite pièce en chocolat. D'abord, Hugo avait regardé à travers une fenêtre à croisillons, puis à travers une autre au coin arrondi d'où pendait un joint d'étanchéité. Il ne s'agissait pas de faire la part entre cauchemar et réalité. En vérité, Hugo avait été témoin de 2 meurtres distincts. Le premier avait eu lieu chez lui, à l'étage, dans la grande chambre à coucher avec son parquet, ses moulures en laiton et une lampe sur pied ornée d'un abat-jour imitation peau de serpent. Hugo avait vu son père tuer un homme à travers la fenêtre à croisillons de la porte du couloir. Pour ne laisser subsister aucun doute, Yuna a appelé la prison de Halle et parlé avec Gerald Pedersen. Il avait été contacté par un avocat et sa libération n'était désormais qu'une simple formalité. « Vous m'aviez dit que votre femme avait été en contact avec un psychologue, » dit Yuna. « Oui, » avait répondu Gérald intrigué. « Vous parliez de la rubrique « Relations » dans le quotidien Expressen ?»«
Oui, exactement. »«
Bernard Sand ?»«
Oui. »
C'est par l'intermédiaire de sa chronique très suivie que Bernard trouve ses victimes. Il reçoit des centaines de lettres intimes, honnêtes ou vaniteuses, des gens qui parlent de leurs problèmes, de leurs inquiétudes, sans réaliser qu'ils se transforment, ainsi que leurs proches, en cibles. La colère de Bernard est déclenchée par ce qu'il perçoit comme une trahison envers les enfants, surtout ceux qui sont particulièrement vulnérables à cause d'une maladie ou d'autres circonstances. Une branche cassée claque sous la voiture de Yuna. Malgré les faibles signaux GPS, l'obscurité et les panneaux routiers recouverts de neige, il comprend qu'il approche du pont de Steket, perché au-dessus d'un bras du lac Mälaren. La visibilité est presque nulle, mais à travers les rares accalmies de la tempête, il devine des fragments de paysage. Les traces laissées par les voitures précédentes ont complètement disparu et la neige se tasse sous le poids du véhicule. Yuna doit lutter contre les rafales pour ne pas chasser sur le bas-côté. Il doit absolument se rendre chez Bernard. Il s'engage sur le pont en se disant qu'Agneta ne tardera pas à comprendre la vérité. Elle est intelligente et a toutes les pièces du puzzle sous les yeux. Au moment même où elle découvrira la réponse, elle sera en danger. En plus des meurtres planifiés, Bernard a déjà fait 4 victimes collatérales. La neige s'engouffre dans le détroit comme une rivière en crue et le pont vibre sous la puissance des bourrasques. Droit devant, 5 feux rouges clignotent comme des lanternes dans la tempête. Il y a eu un accident. Yuna ralentit et aperçoit les premiers signes de la collision. Un camion couché sur le flanc, le pare-brise fissuré, la cabine du conducteur encastrée contre la rambarde de la voie opposée. Il avance lentement. La grande remorque est déjà à moitié recouverte de neige. La plateforme est encore sur ses roues, mais son essieu est tordu. Un lampadaire est renversé. Plusieurs véhicules sont entrés en collision dans les 2 sens de circulation. Tout le pont est bloqué. Yuna commence à reculer quand il distingue à travers la neige des feux de croisement qui s'approchent en ralentissant derrière lui. Il est coincé. Soudain, une 2e voiture venue de l'arrière vient percuter la précédente avec fracas. Les phares blancs tanguent et glissent sur le côté. Le capot heurte la rambarde et le véhicule s'encastre dans l'armature du pont. Yuna ouvre la portière, sort et voit qu'un embouteillage s'est formé derrière lui jusqu'à l'entrée du pont. Il court vers les voitures au-delà du camion. Elles se sont percutées et bloquent le passage, mais aucun véhicule n'est gravement endommagé. Une femme en grosse doudoune, munie d'une lampe torche, discute avec un automobiliste. Yuna s'approche d'elle et lui demande un point sur la situation. Ses cheveux volent dans tous les sens et le vent fait claquer ses vêtements contre son corps. En clignant des yeux pour chasser la neige, elle explique qu'il n'y a aucun blessé grave. Yuna lui demande de s'assurer qu'il ne reste personne dans les voitures, puis de rassembler tout le monde pour marcher en direction de Steket.
« Restez bien à droite, et allez vous réfugier dans la congrégation religieuse des Sœurs de Sainte-Élisabeth. »
Yuna court le long de la file de voitures accidentées jusqu'à l'extrémité du pont et dévale la pente avant de poursuivre sa course sur une étroite route asphaltée, creusée comme une tranchée à l'abri des rafales. Il escalade des arbres abattus, passe devant des maisons aux toits arrachés, slalome entre des débris de meubles de jardin et de barbecue. Un trampoline a emporté avec lui un câble haute tension et s'est accroché dans la broussaille en bord de route. Yuna continue en direction d'un petit port de plaisance et dépasse un pick-up noir en stationnement devant une maison. Des bateaux remontés pour l'hiver ont été renversés, fracassant les supports en bois et les béquilles métalliques. Des cordes tendues entre des bidons d'eau gelée s'entrecroisent et des bâches déchirées claquent violemment dans le vent. Les vagues écumantes projettent des plaques de glace brisées loin sur la rive. Il ne reste que des débris des pontons flottants. Yuna se précipite vers deux hommes qui essaient de remonter un gros bateau pneumatique noir à l'aide d'un treuil. Un homme robuste, barbu, vêtu d'une combinaison orange fluo et d'un bonnet noir, plaque ses mains contre le flanc du bateau pour le maintenir sur la rampe. L'autre, avec une queue de cheval grise, un pantalon vert renforcé aux genoux et une doudoune noire, tourne la manivelle aussi vite qu'il peut.
« Enroule ! Enroule ! Police !»
crie Yuna à travers le vacarme de la tempête en brandissant sa carte de service. L'homme à la queue de cheval le regarde un instant, mais sans arrêter de tourner. Une grosse vague s'écrase sur le bateau, et le barbu manque de perdre l'équilibre.
« Tends le câble !»« Écoutez, je dois emprunter ce bateau !» dit Yuna. « Oubliez ça !» répond l'homme à la queue de cheval. « C'est une urgence !»« C'est l'urgence pour tout le monde ! Revenez cet été !»
réplique-t-il en essuyant la neige de ses yeux.
« Que se passe-t-il ? »
crie le barbu en s'approchant de lui. Un pin se brise dans un craquement strident et s'écrase sur le clubhouse. Une chape de neige est projetée de sa cime et des tuiles cassées s'abattent sur le sol.
« Je dois emprunter ce bateau !» répète Yuna. « Emprunter ? C'est sérieux. Il y a des vies en jeu. Et qui va payer si vous l'abîmez, hein ? Vous savez ce que vaut ce bateau ?»
demande le barbu en pointant Yuna du doigt.
« C'est urgent. Vous me prenez pour un con ? Je donne pas mon bateau, désolé. Demandez à quelqu'un d'autre. »
Yuna repousse l'homme à la queue de cheval et libère le frein du treuil. Le câble file dans un sifflement et le Zodiac retombe à l'eau.
« Putain, vous êtes malade ?»«
Les clés sont sur le contact !» demande Yuna.
« Vous montez pas dans mon bateau !»
grogne le barbu d'un ton menaçant en attrapant une pelle posée au sol. Il cogne la lame rouillée contre une pierre pour dégager la neige, puis saisit le manche à deux mains. Yuna se déplace de manière à ce qu'aucun des deux hommes ne puisse l'attaquer dans le dos. Des vagues repoussent le bateau vers le rivage et le câble menace de renverser le treuil. Le barbu s'avance lentement, tenant la pelle comme une batte. Des petits bouts de glace sont accrochés à sa barbe et de la neige s'est accumulée dans les plis de sa combinaison orange. L'homme à la queue de cheval se décale en contournant les restes d'une vieille barque.
« Éloignez-vous !» les avertit Yuna. « C'est la tempête ! Les gens sont blessés, ils disparaissent !»
crie le barbu en préparant son coup.
« Ronnie, lâche cette pelle !» dit l'autre.
« Flic de merde !» marmonne-t-il.
Yuna recule en levant une main. Une bâche déchirée vole près d'eux.
« Calmez-vous !» dit-il. « Je vous promets que vous récupérerez votre bateau, mais je vais t'éclater la tête !»
le couple barbu nommé Ronnie.
« Si vous ne lâchez pas cette pelle maintenant, je vais devoir vous casser l'épaule droite et le nez avant de prendre le bateau, » dit Yuna.
Ronnie assène un coup avec une force surprenante. Yuna recule d'un pas, la lame passe tout près de son visage. Le barbu chancelle sous la force du mouvement, mais retrouve l'équilibre et lève la pelle à nouveau. L'homme glisse sur la neige en s'écartant. Ronnie avance, effleure Yuna avec la pointe de la pelle pour jauger sa distance, fait un pas rapide, simule un coup bas, puis vise à nouveau son visage. Yuna s'avance d'un bond, bloque l'avant-bras droit de Ronnie avec le sien, pivote et le frappe violemment du coude à la base du nez. La tête de Ronnie part en arrière. Il s'effondre sur le dos dans la neige. Yuna saisit son bras, tire et sent l'os céder dans l'articulation de l'épaule. La pelle est projetée vers le haut et la lame effleure le cou de Yuna, lui entaillant la peau. Il porte la main à sa blessure et sent le sang couler abondamment. L'homme à la queue de cheval a sorti un couteau de chasse. Yuna se retourne vers lui et fait un pas en avant. Ronnie, à genoux, le bras pendant mollement, hurle de douleur, des éclaboussures de sang et de salive jaillissent sur sa barbe.